Retrouvez à présent au cœur de Saint-Pierre, le magazine de la ville de Saint-Pierre-du-Mont sur MDM.
Le magazine consacré à Saint-Pierre-du-Mont, son cœur, son bourg, son lac, ses jardins, ses quartiers et ses gens d'ici. Quatre Saint-Pierrois, deux hommes et deux femmes au cœur de l'actualité de la commune. Courtoisie de rigueur, une demoiselle en premier lieu, elle s'appelle Leïla Bataille, 32 ans, résidente à Saint-Pierre-du-Mont depuis 2014, où elle a choisi de s'investir en intégrant l'un des six conseils de quartier de Saint-Pierre-du-Mont, celui du Grand Bourrassé, le Pouille, autrement baptisé Quartier Rouge, du Rouge dont elle voudrait qu'il bouge, à travers un projet culturel et intergénérationnel qui est le sien, rencontrer les habitants, et notamment les plus anciens, afin de collecter toute forme de témoignages sur l'histoire et l'évolution de ce quartier. Une approche donc sociologique, mais pas seulement, que Leïla Bataille justifie ici, sous la pluie.
Alors à l'origine, c'était dans l'ancien conseil de quartier, le quartier violet qui englobait le Pouille, le Biarnès. Donc on avait, avec nos anciens collègues en conseiller de quartier, émis cette idée-là pour être plus attentif en fait aux besoins des habitants et également retracer l'histoire un peu du quartier.
Dans les moyens que vous vous êtes donnés, l'idée c'était recueillir des témoignages, recueillir des photos.
Des photos, des anecdotes, des personnes célèbres ou des figures locales qui ont vécu dans le quartier, en récupérant des témoignages auprès d'habitants ou d'anciens habitants qui ont habité ce quartier-là.
L'idée c'est de collecter tout ça et ensuite de pouvoir le retranscrire, c'est-à-dire faire une exposition, un recueil, comment ça se passerait?
Alors l'idée c'est effectivement de le collecter, d'organiser une exposition, d'inviter bien évidemment les participants justement à venir aussi eux-mêmes témoigner pour créer du lien social, un lien aussi intergénérationnel pour pouvoir transmettre ce patrimoine immatériel.
L'idée, alors on va appeler un chat, on est un peu à une période, notamment dans ce quartier, dans une phase où il y a beaucoup d'arrivants, où il y a beaucoup d'octos, de nonagénaires aussi je crois savoir, oui. Et c'est de laisser une trace tant qu'il y a encore des acteurs et actrices
tout
là.
Tout à fait, c'est laisser une trace des vivants et c'est vrai que ce quartier est en train de changer, donc c'est le moment de le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disparaissent, des personnes âgées qui disparaissent de ce quartier.
Alors comment on peut s'y prendre? Parce qu'on est avec des nouveaux arrivants qui ne sont pas forcément au courant de l'information, des personnes âgées qui ne sont pas forcément connectées. Comment vous voudriez, vous avez déjà commencé à solliciter les gens, comment voudriez-vous y prendre maintenant?
Alors ça serait plutôt un appel à témoignage, essayer de mettre en place le bouche à oreille s'il y a des personnes qui connaissent, des personnes qui ont connu le quartier du Pouille, hein, on parle de l'ancien lotissement du Pouille côté Saint-Pierre-du-Mont, qui connaissent bien le quartier, qui ont des photos, des cartes postales ou des anecdotes, ou tout simplement qui ont connu des personnes qui ont vécu dans ce quartier, des personnes célèbres ou plutôt des figures locales. Ça serait l'idéal de contacter donc le conseil de quartier.
D'accord. L'adresse à laquelle on peut vous contacter?
Donc par mail au quartierrouge@saintpierredumont.fr ou sinon envoyez directement un courrier à la mairie de Saint-Pierre-du-Mont. 1 avenue Georges Sabde, 40 280 Saint-Pierre-du-Mont. Vous pouvez également le mettre à l'attention donc du conseil de quartier rouge.
Ça serait quoi l'idée de pouvoir, à quelle période peut-être, pouvoir présenter ce qui a été collecté, tous vos travaux?
Pour l'instant, on n'a pas de date limite fixée. Le but, c'est de récolter des témoignages intéressants et de rencontrer le maximum de personnes possibles. Pour moi, c'est important de transmettre ce patrimoine immatériel parce que, comme on le dit si bien, rien ne le matérialise concrètement et il est voué à disparaître avec la mémoire des gens.
Et est-ce que ça pourrait pas faire tache d'huile avec les... Est-ce que vous avez discuté avec les autres conseils de quartier finalement, que ce soit toute la commune qui suive un petit peu ce mouvement?
Oui, c'est un projet qui pourrait intéresser d'autres conseils de quartier et effectivement toute la commune de Saint-Pierre-du-Mont s'il arrive à être intéressant et intéresser les habitants.
Je vais terminer par ça. Derrière tout ça, il y a aussi ce souhait d'aller aussi vers notamment les personnes âgées, des personnes isolées peut-être.
Tout à fait.
D'aller peut-être plus souvent pousser leur porte, d'aller quand il fait peut-être un peu chaud, ou, enfin voilà, sans être un assistant, mais
non,
socialement, sociologiquement parlant, d'être là.
Tout à fait, c'est vraiment avoir un œil sur son voisin sans être intrusif, mais avoir un œil sur des personnes qui pourraient être à risque, isolées, et vraiment être présent pour eux et avoir un retour de leurs besoins éventuels.
C'est donc un projet intergénérationnel, culturel, mais aussi bienveillant, on peut dire.
Bienveillant, social, on peut le voir comme ça.
Habitants ou anciens résidents du quartier du Pouy à Saint-Pierre-du-Mont, si vous souhaitez apporter votre petite pierre par le biais de témoignages photos et autres au noble projet de Leïla Bataille, pour rappel, une adresse, quartier rouge, tout attaché, @saintpierredumont.fr.
C'est l'heure de repartir, s'enfouir dans nos terres à ping. Merci à tous ceux qui ont participé à la parade, de près et de loin. Pour elle et pour nous, je vous remercie. Elle sourit déjà de nous voir danser. Elle dit Jatmoud.
D'un quartier à l'autre, quittons celui du Pouy pour celui de la Mousteille et l'association du même nom, l'AQM, afin de rencontrer le successeur de Sophie Lapeyre, qui va enfin pouvoir profiter légitimement de ses droits à la retraite après 7 ans de bons et loyaux services. Pour lui succéder, un nom qui résonne encore dans certains recoins du stade Guy Boniface, chez le voisin Montois, où le joueur a fait ses classes, mais où l'éducateur, voire le mentor, pour certaines jeunes pousses passées sous ses ordres, s'est fait un nom. Claude Marson. Après une courte escapade en mairie narbonnaise, à la tête du pôle sport santé, le garçon a éprouvé le besoin quasi viscéral de revenir sur ses terres et surtout de se fixer un nouveau challenge. Les habitants du quartier ne s'en plaindront certainement pas, nous non plus, car Claude Marson est ce qu'on appelle dans notre jargon un bon client. Pas le genre à apporter de protège-dents, ça pourrait le gêner dans le cas très improbable où il aurait voulu mâcher ses mots. Entretien réalisé au Café Musique au mois de mars dernier lors d'une rencontre théâtrale et forum sur notamment la place des femmes dans la société avec les enfants du quartier. La précision aura son importance à la fin de cette rencontre.
Je me suis vraiment régalé là-bas, mais c'est vrai que bon, je suis attaché quand même ici.
Ouais.
Très attaché au Land, donc ça m'a manqué.
L'opportunité, comment ça s'est présenté du coup ce poste à la QM ?
En discutant avec Joël Bonnet. Voilà, je l'ai rencontré pour lui dire que voilà, j'avais des projets pour venir, j'avais des idées d'animation. Animation un peu dans le lien social, tout public, pas forcément sportif, au contraire, un peu tout. Et il a tendu une oreille, et puis après on s'est revus comme ça, je pensais pas que ça donnerait la suite. Hein. On s'est revus, puis il m'a dit, il avait réfléchi, il y avait un départ en retraite de Madame Lapeyre à direction de la Mousteille, de la QM, que je connaissais, la QM, donc j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, ça me plaît ça. C'est beaucoup plus dans le social, et j'avais envie un peu, pour le sport, j'avais fait le tour, et j'avais envie vraiment de partir là-dedans.
Alors la vision en tant que aussi Montois du quartier de la Mousteille.
C'est pas Chicago. Je suis jamais allé à Chicago, ouais. Mais je pense pas que ce soit Chicago. C'est sympa parce que c'est arboré.
Ouais.
Il y a un joli chalet au milieu dont on veut faire un peu le cœur du quartier. Et non, c'est bien. Il y a deux ou trois des fois, petits incidents comme il y a un peu partout et comme il y a dans d'autres quartiers de Marsan dont on parle pas.
Ou en Narbonne.
En Narbonne. Ouais, en Narbonne, j'y allais pas dans les quartiers, c'était un peu plus chaud. Les quartiers étaient un peu plus grands.
Ouais.
Et non, après la Mousseille, je connaissais, j'avais fait drop de béton avec notamment Géraldine qui travaille encore à l'assaut. Et non, c'est bien, c'est calme, hein, c'est calme, c'est perdu bon.
Ouais, d'accord. La QM de son action, qu'est-ce que tu en savais? Connaissais les gens?
Alors, j'en ai découvert. J'ai découvert l'aide aux devoirs, tout ça. Ce volet-là, que je savais qu'il y avait de l'animation, beaucoup avec les enfants, accueil de loisirs, tout ça, puisque je les avais côtoyés. Mais après, je savais pas qu'il y avait des cours de FLE, des cours de français pour les personnes qui ne parlaient pas du tout français, pour les migrants notamment, pour les personnes étrangères qui arrivent, ou des personnes qui veulent se perfectionner. Un point relais emploi, je ne savais pas non plus. Et il y a plein d'animations. Et là, on est en train encore de diversifier, parce que bon, il faut occuper les personnes à la journée.
Ouais. Les premiers mois, c'était un peu en round d'observation, c'était d'abord observé avant de...
Ouais, j'ai eu la chance, donc moi je suis embauché par la ville de Saint-Pierre-du-Mont, mis à disposition, la QM me prend en charge mon salaire, mais je suis à disposition par la mairie. On a eu l'occasion d'avoir un tuilage, c'était bien pour justement m'imprégner sans avoir trop de pression, puisque Madame Lapeyre était là pour faire tous les bilans, parce que c'est quand même du lourd, hein, au niveau social, au niveau des aides, c'est quand même assez lourd à gérer. Et ça m'a permis, moi, d'avoir une partie de travail assez facile pour faire les projets, puisqu'elle s'occupait du plus délicat, qui était les finances.
Ouais. C'est encore un peu tôt pour en parler des projets ou...
Non. Là, après, on n'a rien révolutionné. Il y avait le base, comme on dit au rugby. Les fondations sont bonnes, la conquête est là. C'est-à-dire, Madame Lapeyre a fait un excellent travail, notamment sur tout ce qui est administratif et finance. Là, de ce côté-là, elle est très forte. Et après, c'est facile de vouloir diversifier, et ce qu'elle avait déjà fait, elle aussi, en diversifiant, en faisant les cours de français, notamment. Et chaque fois, c'est facile de rajouter une idée nouvelle. Quand toutes les idées sont bonnes avant, on arrive, on rajoute quelque chose. Donc, j'ai pas trop... C'est assez facile. Et donc, mon idée, c'était animer un peu plus le chalet dans la journée.
Ouais.
Alors, et diversifier les activités. On était très bons sur les jeunes. On a un point relais insertion avec chantier insertion, on est bon aussi. Et là où on était absent, c'était en journée, le chalet était fermé. Ça m'a un peu choqué, quoi, un peu chuté. Pourquoi on n'ouvrirait pas? On a les animateurs sur place. Donc on a mis en place des parcours avec une idée bien sûr de santé derrière, la promotion de la santé qui est portée par la politique de la ville cette année en plus.
Ouais.
Ça tombait bien, et donc la santé c'est un tout, on a fait du lien social avec atelier couture, première séance on est 15 personnes. On a sondé les habitantes du quartier, parce que c'est surtout les habitantes, elles voulaient marcher, faire du sport, donc ça tombait bien, on a marché l'autre jour, 16 personnes le premier jour, on est très contents. Et après on a ouvert le chalet le vendredi soir deux fois, quoi, une fois et une fois le mercredi aux jeunes.
Ouais.
Les jeunes qui sont dehors, dont on dit ils sont toujours dehors, normal, parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller, donc ils sont dehors, c'est logique. Voilà, s'ils avaient un endroit où aller, quand on ouvre, ils viennent.
Ouais. Culture, santé, le des mondes du sport, il ressurgit, je ne sais pas, c'est le dernier dada, c'est le vélo, à titre
disons,
personnel.
Le vélo. Il y a un atelier vélo,
il faut le savoir.
Ouais. Il y a un atelier vélo qui a été fait il y a 4 ans, et ça c'est un super truc, donc on a vraiment un vrai atelier, un mécanicien dedans, on a vendu 110 vélos l'an dernier, c'est pas pour faire de l'argent, puis c'est des vélos qu'on vend 10 ou 20 euros, que les pros ne veulent plus, on les récupère, et les personnes qui cherchent du travail, qui n'ont pas de voiture, peuvent aller travailler à moindre coût, à 15 euros, ils achètent un vélo. Et en même temps, ils donnent la main à la pâte, ils apprennent à monter une roue, tout ça, il y a un côté, animation, lien social avec cet atelier vélo. Après, sur le sport, oui, c'est les gamins, on a tissé des liens avec le service des sports de la mairie, avec les clubs, pour inciter les gamins à aller sur les clubs, parce que là, par contre, je pense connaître un peu la partie. Un gamin qui est en club, quand même, c'est facilitant un peu. C'est facilitant pour les parents, c'est facilitant pour tout le monde. Il est habitué à avoir des contraintes, des règles de vie un peu. Et on le voit vite, un gamin qui est en club, quel que soit le club. Ça peut être un club, une asso, musique, tout ça aussi. Il y a quand même un moment, il faut y aller.
Ouais.
Il faut y aller, à telle heure, il y a un rendez-vous. Voilà, ça c'est important.
Bon, la greffe, on peut dire, a bien pris.
Oui. Bon, après,
c'était pas non plus.
Il y a 15 personnes, plus les bénévoles, une vingtaine de personnes qui œuvrent à la QM, des gens passionnés. Et voilà, je suis pas du tout tout seul, heureusement. Ouais.
C'est une petite famille. Hein.
Ouais, ouais, ouais. C'est très convivial. Géraldine est liée depuis 2002, je crois. Ouais. Donc, on commence à avoir de la bouteille. Hein. Ouais. Elle a tout fait, animatrice. Maintenant, elle est dans l'insertion. Voilà, elle maîtrise complètement le sujet. Sophie à l'accueil, pareil. Les animatrices sont très motivées. On a l'animateur issu du quartier aussi. Ça, c'est important. Ouais. On prend des stagiaires à BAFA. Voilà, on est vraiment dans le côté insertion. Ça nous plaît bien.
Ouais. Ouais, genre couteau suisse, c'était pas mal non plus.
Hein,
non,
oui.
J'arrive à tout faire.
Voilà, mais moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je dis, il faut qu'on soit polyvalent, il faut arrêter d'être hyper spécialiste, des métiers où c'est hyper spécialiste, les gens, on les sort de leur petit truc, ils sont complètement perdus, des gens des fois très brillants dans leur partie, on les sort, oh là là, je sais pas, je sais pas. Moi je sais que bon, il y a eu des petites réflexions quand je suis arrivé à la Mousseille, il faut pas être sportif à la Mousseille. Oui, sauf que moi je suis cadre A, quoi, je suis directeur. Donc un directeur, c'est pas forcément un sportif, pas toi directeur, il a pas que des œillères, un sportif, c'est un cheval qui a des œillères, c'est pas un sportif. Donc ça vexe un peu, mais à un moment ça me fait rire, parce que j'aime bien un peu, voilà, j'ai eu des réflexions de personnes sur les gens bien placés dans des filières de l'État, tout ça. Oui, on voyait pas le poste comme ça, comment ça voyait pas quoi, croyait qu'on va courir tous les jours autour d'un quartier ou quoi. Mais enfin, si on peut faire marcher les personnes, on aura fait un grand pas sur beaucoup de choses. Mais bon, après, ça me fait rire. Ça me fait rire, et moi, c'est des challenges. Et
toi, te faire un plaisir de les faire mentir aussi.
J'ai mûri, je le prends rigolant. Je ne me vexe plus. Voilà. Et oui, après, les faire mentir. Oui, oui, les faire mentir. Oui, 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 oui.
Là, il y en a qui mentent pas, c'est les enfants qui viennent d'arriver.
Voilà.
On va aller. Bon, allez, ça va, les enfants? Bonjour, c'est pour la radio. Dites bonjour à la radio, à Radio MDM.
Bonjour, on passe à la radio après.
Bonjour, Radio MDM.
Bonjour, Radio MDM.
Bien, c'est très bien, ça.
Skyrock.
C'est Skyrock.
Pas tout à fait.
Ah mais oui, c'est... Ah oui, non, oui. J'aime Radio MDM.
Moi.
Et voilà, je savais bien. Tout le monde aime Radio MDM.
MDM, nous aussi on aime.
Un autre Saint-Pierrois à l'honneur dans ce magazine au cœur de Saint-Pierre. On reste sur le bitume, culture street oblige. On aurait pu y accoler le basket si nous avions évoqué le playground, sauf que là c'est du parquet de l'espace François Mitterrand dont il s'agit. Ce parquet où Mathieu Peyrouté a ses habitudes à la tête de son association de danse hip-hop Dreamland. Le garçon aujourd'hui est l'entertainer en chef des mi-temps des rencontres à domicile de l'équipe de Basketland, où avec les représentants de son crew, tous âges et tous sexes confondus, il profite de la pause pour offrir au public des démonstrations de danse. Lorsqu'on évoque justement la danse et le hip-hop, inévitablement, on pense au battle de breakdance quand deux danseurs se défient à tour de rôle à grand fort de Cypher, Popper ou autre 99. Oula, je sens qu'il y en a qui décrochent. Le 99, c'est quoi au fait déjà, Mathieu ?
C'est la fameuse figure en équilibre sur une main. Voilà, à l'époque, 99, parce qu'on reproduisait le 99 avec nos mains, donc deux tours. Aujourd'hui, le record mondial par Sico est de 27 tours.
Alors juste, ça c'est aussi pour en aparté, les questions que je n'ai pas posées. Comment ça se passe pour qui désigne un vainqueur d'un battle, par exemple ?
Alors, donc, le vainqueur d'un battle est remis à un jury. Un jury notamment reconnu et qui a fait un parcours dans la danse, et donc à main levée. Le speaker compte 1, 2, 3 et il vote à droite ou à gauche.
Est-ce qu'il y a des, j'allais dire comme au patinage artistique, est-ce qu'il y a des figures imposées ou des figures qui, entre guillemets, qui font des points quoi ?
Il y a quand même des critères, notamment la base, la musicalité, car on n'oublie pas que les danseurs hip-hop sont aussi des danseurs. Il y a également la technique et pour finir aussi les fondamentaux. On veut aussi voir les fondamentaux.
Alors les fondamentaux.
Alors les fondamentaux, ça va être le top rock, donc les premiers pas de base, le footwork, sont les jeux de jambes au sol, et le power move, la coupole, les tournées sur la tête, voilà les figures emblématiques.
Là, on a les bases, un peu d'histoire autour de l'association Dreamland qui fête cette année ses 20 ans d'existence, et de l'histoire de Mathieu aussi qui, lui, est né en 1982. Et cette année-là,
moi je regardais Sydney à la télé en 82.
C'est exactement ça, et nous on est arrivé là, donc on est sur la deuxième génération, très fier. On a à peu près 770 élèves sur le département, notre actif, voilà, avec notre événement Kids Tour qui a eu lieu cette année le 10 février pour sa 7e édition, et notamment notre premier international qui aura lieu le 18 et 19 mai à Dax.
Comment t'es tombé dedans, toi, dans la culture hip-hop? C'est d'abord la musique, la danse, le graphe, comment ça a commencé?
Alors, ça a commencé par la danse, tout à fait. Alors vraiment, par hasard, très loin de la culture hip-hop, je me retrouvais lors d'un mariage asiatique à Labouère. donc avec le fameux bal traditionnel, ouais. Et à la fin du bal, donc un cercle s'est ouvert devant nos yeux, et là on a eu le coup de foudre.
T'as vu, je veux faire ça.
Voilà, donc après évidemment, hein, donc on a commencé à s'informer, on scrutait tout, la moindre publicité, le moindre clip vidéo de rap, où c'est qu'on pouvait voir un échantillon de danse. Et après nos premiers débuts, ça a été avec le Café Musique, des interventions donc en hip-hop, notamment le groupe L'Union, qui venait de Tiros à l'époque.
Dans les Landes, c'est pas qu'on a des bizarrement, mais on s'est dit tiens, c'est, on est dans les Landes. Je me souviens même quand des garçons comme Virgile ont débarqué, on est du rap landais, voilà, on est quand même en milieu rural d'une certaine manière pour des musiques urbaines. Comment ça a été vécu au tout début, là, les premiers pas?
Bon, c'est vrai qu'au début on était un peu passé pour les mauvais garçons, mais de fil en aiguille, ils ont bien vu qu'on était là pour l'énergie positive justement que représente le hip-hop, et qu'on était là pour faire de bonnes choses, notamment la transmission. On a beaucoup voyagé, et après on a fait notre nom, et on a montré qu'on était une énergie positive et non négative.
Comment ça marche dans Dreamland? Il y a des niveaux, c'est mixte quand même, il faut rappeler.
Alors oui, donc Dreamland c'est mixte, exactement. Donc on a de tout âge, on commence avec les éveils jusqu'aux adultes, et là depuis 2 ans on a monté ce qu'on appelle notre sélection landaise, auquel on a recruté pas forcément les plus forts mais les plus motivés de tout le département. Et donc on est en train de préparer la qualification pour les championnats de France qui aura lieu l'année prochaine.
Comment, quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'il faut avoir en premier pour se lancer dans la danse?
Bon, je pense qu'il faut pas avoir peur de la découverte, hein, car la danse est expansive, elle fait que de progresser, elle fait que d'évoluer. On n'est pas sur des vents fondamentaux qui ne va pas évoluer, donc il faut pas avoir peur du renouveau. Voilà, moi je change à peu près les programmes tous les trimestres, je ramène de la fraîcheur, de la nouveauté, et il faut pas avoir peur de rester sur des choses basiques.
Les entraînements, comment ça se passe? Parce que limite on peut en faire, c'est comme les Yamakasi, on peut danser partout.
Alors voilà, l'entraînement tout dépend de l'investissement du danseur. Un danseur de loisir va se contenter d'un cours par semaine, et un enfant qui est passionné, qui veut évoluer, eh bien, viendra taper à toutes les portes des cours de danse et peut aller s'entraîner jusqu'à 3-4 fois par semaine.
Comment ça se passe justement là, c'est la fréquence des entraînements, comment tu fais toi?
Ben, du coup en fait ils ont une adhésion par structure, vu que comme je vous ai expliqué on se déplace un petit peu dans tout le département, ouais. Et après les structures font une entente entre eux auxquelles ils ont besoin de payer qu'une adhésion et peuvent venir profiter des cours dans les autres villes pour venir s'entraîner. Donc voilà, généralement un danseur de loisir va avoir un cours par semaine, et un passionné, ouais, voilà, comme je disais, va s'entraîner 3-4 fois, jusqu'à même 5 fois par semaine.
Y a pas mal de... Alors comment faut les appeler, c'est pas des battles, mais des championnats, comment ça se passe?
Bah si, tout à fait, ce sont des battles. Les battles donc qui sont organisés par les associations et les autres régions. Donc cette année dans le département des Landes, on a la chance d'en avoir un peu plus. On doit avoir 4 à 5 dates annuelles, mais après ça ne nous empêche pas de voyager, de se déplacer en Grande-Aquitaine et même sur la capitale à Paris.
Il commence à y avoir une reconnaissance de la culture, de l'art, de tout ce qui est street. L'ACMÉ, ça pourrait être les JO de 2024. Il se trouve que la danse pourrait devenir discipline olympique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment t'envisages ça?
Ah ben justement, donc là c'est la grande question, parce que évidemment le monde du hip-hop se partage en deux. Certains ont peur de perdre leur identité, ce côté underground, être donc mis dans une case. Et moi je suis sur un autre avis. Je pense que c'est le moyen de valoriser et de remettre en grand jour le hip-hop. Vous voyez, aujourd'hui il y a plus de 40 ans et on n'est pas encore assez visible, on n'est pas encore assez reconnu. Moi je le prends sur cette force-là. Et évidemment, le côté underground ne se perdra pas, parce qu'il restera toujours la compétition pure hip-hop, mais je pense que c'est une évolution pour la danse.
Tu parlais de transmission justement, et des petits jeunes qui vont peut-être t'entendre, qui vont se dire tiens, ben, on va appeler, je sais pas, l'idée d'en former, d'en pousser pour peut-être, qui sait, les former pour 2024.
Alors moi évidemment ça devient un objectif très intéressant, préparer le danseur qui souhaiterait y participer, parce que là c'est 4 ans de préparation, mais du coup 4 ans de très très haut niveau. Donc moi je suis prêt à les accompagner, et notamment pour ça on a créé un partenariat avec donc l'école InTech, et nous venons de mettre au jour une application de hip-hop qui s'appelle hiphop.fr, qui est pour l'instant sur la version bêta, une application qui leur permettra de suivre les entraînements, les refaire à la maison et s'organiser.
Tu parlais justement du hip-hop qui avait 40 ans, j'aime pas beaucoup ce mot, et pour cause, mais comment on vieillit avec le hip-hop?
Mais il faut apprendre à vieillir avec son temps, justement, à reconnaître les nouvelles générations, les nouvelles performances, les nouveaux outils qui se sont mis en place. Et moi, je le vis plutôt bien, vu que j'ai la reconnaissance des plus jeunes, qui ont d'ailleurs volé par leurs propres ailes aujourd'hui. J'ai beaucoup d'élèves qui enseignent et qui font partie de très gros groupes français. Et donc, du coup, moi, je le prends comme un ancien, avec le sourire et une reconnaissance.
Enfin, l'ancien, je l'ai vu, c'était à l'espace Mitterrand, à la mi-temps de Basketland, face à Bourges. Il y a de très, très beaux restes.
Je ne suis pas qu'un simple professeur qui transmet. J'estime que pour transmettre également, il faut être aussi encore dans le bain et danser encore avec eux, au moins pour le partager avec eux et pas simplement donner de simples conseils.
On vous voit de plus en plus d'ailleurs, voilà, sur des manifestations pleines de démonstrations. Comment on peut faire pour te contacter si voilà, un particulier, une commune vous faire venir?
Donc alors évidemment, on parlait de faire avec notre jour d'aujourd'hui, les systèmes de communication, donc aujourd'hui Facebook qu'on n'avait pas auparavant. Donc c'est facile, c'est Dreamland Dance sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. Et donc voilà, je serai ravi de répondre à toute démarche et toute proposition.
Alors rappelez-moi les gros événements là, donc à venir, tu disais.
Alors le plus gros événement à venir, évidemment, c'est notre Kids Tour International qui aura lieu le 18 et 19 mai à Dax, au stade d'Arigad. Et voilà, je vous attends très nombreux. On attend donc un gros mouvement hip-hop, notamment avec la Russie, l'Espagne, les Hollandais, la Belgique. On a également donc un gros jury avec B-Boy Junior, une référence mondiale sur la planète hip-hop. On aura également Simo Cro, l'un des plus gros phaseurs Révélation 2019, qui vient tout juste de Marrakech, et un grand danseur italien qui s'appelle Sico, le record du monde en 99. Donc un très très grand mouvement.
99, je te rappelle pas ce que c'est puisque t'as tout noté. Ok, t'as pas eu le temps, donc t'as toutes les infos et les liens sur la page Facebook Dreamland Dance. Quant à toi, DJ, pose-nous du bon son.
clôturer ce numéro printanier du magasin au cœur de Saint-Pierre, nous avons rencontré Cathy Séris. À l'origine pharmacienne, elle s'est lancée il y a quelques années dans l'herboristerie.
L'herboristerie, c'est l'utilisation des plantes médicinales à des fins thérapeutiques. Donc on va utiliser les plantes sèches, on va utiliser des plantes sous forme de gélules, des huiles essentielles, de la gémothérapie, toutes sortes d'utilisation d'extraction de la plante à des fins thérapeutiques.
Et l'herboriste est donc la personne qui s'occupe de préparer les plantes pour les intéresser. Après 3 années d'études à l'école Patrice Bonneval à Lyon, Cathy reçoit son diplôme. Mais en 1941, le maréchal Pétain a eu la bonne idée de supprimer ce diplôme. Vous pouvez donc suivre une formation d'herboriste pendant 3 ans, à distance ou pas, effectuer des stages et passer vos examens. Le diplôme que vous obtiendrez ne sera pas reconnu par l'État.
Mais on a quand même la possibilité de vendre une liste de 148 plantes et les compléments alimentaires. On a quand même le droit de vendre une catégorie de compléments alimentaires. Autrement, la plupart des plantes se retrouvent en pharmacie. C'est le monopole de la pharmacie qui a le droit de vendre la plupart des plantes. Voilà.
Parce que toi, t'es passé de la pharmacie à l'herboristerie.
Oui, fait. Voilà, c'est ça. J'ai été pharmacienne d'abord, jusqu'à il y a pas très longtemps, jusqu'à 5-6 ans. Et comme je ne pratiquais pas l'herboristerie à l'endroit où je travaillais ou dans les différentes pharmacies où j'ai travaillé, du coup, je me suis lancée. Mon mari avait besoin de moi dans la structure actuelle. Donc, j'ai monté une petite surface d'herboristerie.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans?
C'est surtout la non-possibilité d'exercer cet art. Si tu es en pharmacie, j'avais pas la possibilité de conseiller l'herboristerie, de conseiller les plantes, d'aller plus en profondeur dans cet art-là, parce que c'est un art en fait. Donc c'est pour ça que j'ai quitté la pharmacie.
Arte Botanica, la charmante échoppe d'herboriste de Cathy Séris, voit donc le jour en 2013. Elle nous confiait que l'emplacement hors du centre-ville ne lui confère pas une excellente visibilité, d'autant qu'elle ne met pas le paquet sur la com. Mais elle trouve des alternatives.
Je fais pas mal d'ateliers, je fais des formations également d'aromathérapie et de phytothérapie.
Est-ce que justement ça rencontre du succès, ces formations, parce que ça se développe de plus en plus?
Oui, voilà, ça, au début ça rencontrait pas beaucoup de succès, mais maintenant de plus en plus. Ouais, les gens commencent à se tourner vers les médecines naturelles, les complémentaires, et donc ils cherchent à se soigner ou à faire de la prévention de maladies, c'est-à-dire à éviter les maladies par des plantes, oui.
Ses conseils et son savoir, Cathy les dispense également lors des ateliers de l'agenda nature de Saint-Pierre-du-Mont. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle anime 2 à 3 ateliers dans l'année.
On fait ça avec Agnès Capitain, qui travaille à la mairie de Saint-Pierre, qui est seule et qui est l'instigatrice de la chose. Et donc, ça me tenait à cœur de partager en fait cette passion, parce que du coup, comme je ne suis pas très visible au niveau de mon herboristerie, j'avais quand même envie de... Si je suis partie de la pharmacie, c'est que j'avais envie de partager quand même cet art de l'herboristerie. Et donc Agnès m'a donné la possibilité de le faire partager et de montrer aux gens que c'était quand même assez accessible et facile de se soigner ou de se maintenir en bonne santé. C'est pas forcément se soigner, mais se maintenir en bonne santé par des plantes qui sont indigènes, c'est-à-dire qui poussent dans notre environnement. Voilà, c'est tout ça qui m'anime pas mal. Donc on fait la gémothérapie, on a fait les huiles essentielles, on a fait les plantes du jardin aussi l'année dernière, on a fait la cosmétologie, enfin, voilà, donc comment préparer ces crèmes cosmétologiques. Parce que c'est pareil, maintenant, on se rend compte que les excipients qu'on utilisait dans certaines crèmes cosmétiques ou lessives sont assez dangereux à long terme, voilà, ou peuvent être dangereux à long terme. Donc c'est bien de préparer ses propres produits. Et puis c'est créatif, en fait. On fait des crèmes pour soi, donc c'est la partie créative de la chose qui est intéressante aussi.
Et puis il y a une forme d'autosatisfaction aussi, oui, après, voilà. À utiliser les produits qu'on a créés.
Voilà, c'est ça. C'est ça, oui.
Il y a aussi peut-être un esprit zéro déchet dans tout ça.
Il y a l'esprit zéro déchet, oui, voilà, c'est ça. Et zéro déchet, et même dans les plantes que je propose, quand je conseille des plantes, c'est vraiment des plantes... Alors, forcément pas locales, parce qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs ici, mais c'est des fournisseurs qui sont locaux, enfin régionaux du Grand Sud-Ouest et de France. Et j'essaye quand même de donner des plantes qui ne viennent pas de l'autre côté de la planète. Par exemple, j'ai une gamme de propolis qui vient de l'Hérault. J'essaye quand même d'avoir des petits producteurs locaux. Voilà.
Ça va dans la démarche.
Oui, 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 ça commence à une démarche écologique déjà. Je suis dans un bâtiment écologique. Avec mon mari, on essaye quand même d'avoir un impact écologique pas trop mauvais. Chacun doit faire son petit geste pour la nature et c'est comme ça que j'agis.
Avant de reprendre sur cette idée de travail avec et pour la nature, faisons un petit point culture. Lorsqu'elle évoque les ateliers, si les huiles essentielles et la cosmétologie parlent au plus grand nombre aujourd'hui, la gémothérapie reste peut-être un chouïa plus mystérieuse.
Alors la gémothérapie, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, on va utiliser les bourgeons au printemps, là. C'est, bon, c'est un peu fini maintenant, mais on va utiliser les bourgeons des plantes parce que les bourgeons sont des tissus embryonnaires qui vont renfermer plein d'hormones, de vitamines, d'oligo-éléments qui sont nécessaires au développement de la plante. Et donc nous, on va les extraire, on va faire une triple extraction avec de l'eau, de la glycérine et de l'alcool pour pouvoir extraire la majorité des principes actifs de la plante. La qualité de ces produits-là, c'est que, et l'intérêt de ces produits-là, c'est qu'on va utiliser vraiment le totem de la plante, c'est-à-dire tout ce qui est important pour la plante pour se développer. Et donc, ça va nous intéresser parce que ça va être des plantes qui vont nous drainer, qui vont nous apporter quand même pas mal d'oligo-éléments. Et à des faibles doses, en fait, et donc il y a peu d'effets secondaires. On n'a pas d'effets secondaires. Et donc, ça peut accompagner certaines médications ou certains traitements allopathiques. Donc là, on ne fait pas de bêtises, on peut accompagner. Et du coup, on aura moins d'effets secondaires que d'autres plantes qu'on peut utiliser dans d'autres extractions.
D'après toi, pourquoi il y a ce retour vers la nature et toutes les choses naturelles là, depuis quelques années, depuis le début de l'année 2010 ?
Pourquoi ? Ben parce que les gens sont renseignés, les gens voient qu'il y a quand même des soucis au niveau des médicaments. On voit qu'il y a des effets secondaires au niveau des médicaments. Et je pense que les gens prennent conscience quand même de cette nature qu'il faut préserver. J'ai beaucoup de gens qui viennent quand même me demander comment ils peuvent se soigner avec les plantes du jardin. Donc ça, c'est intéressant en fait. C'est prendre nos plantes aromatiques et pouvoir, c'est facile avec rien que le thym, le romarin, la sauge, la lavande, on peut faire pas mal de choses. Donc c'est des plantes qui poussent ici, donc c'est ça qui m'anime énormément. C'est dire aux gens que finalement on peut arriver à faire des choses, on va se balader en forêt, on va trouver des bourgeons pour faire de la gémothérapie, des bourgeons de noisetiers, de noyers, voilà, donc c'est très facile en fait. Si on arrive à se pencher sur la chose et à essayer de voir comment fonctionne la nature, on peut arriver à faire des choses extraordinaires sans polluer.
Oui, il suffit d'être éduqué.
Il suffit d'être éduqué et d'être curieux. C'est pas l'éducation, tu c'est facile. Tu prends un livre, tu écoutes certaines radios, il y a toujours quelque chose qui va nous éduquer ou sur Internet. Mais c'est être curieux surtout. Être curieux, ne pas passer devant des choses qui sont extraordinaires. On n'a plus cette vision de l'extraordinaire de la nature en fait. Là, ce printemps, il a été magnifique. On a eu des fleurs partout. C'est ça. C'est se rendre compte que la nature est à côté de nous, qu'on vit dans la nature. On est dans un environnement. On est un tout dans un environnement. C'est ça qui est intéressant.
Et une résurgence de l'image de la sorcière,
ah, oui.
Moderne.
Ah ouais.
Et l'équivalent de la féministe, un peu la sorcière
oui,
aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Oui.
Et l'utilisation des plantes. Est-ce que toi, tu as envie d'être revendiquée de ce mouvement ?
Oui, je pense. Oui, oui. Je suis une vieille sorcière de... Oui, oui. Puis l'herboristerie, de toute façon, c'est un art qui est ancestral. Donc forcément, on est des vieilles sorcières ou de vieux sorciers quand on pratique l'herboristerie. C'est ça, mais c'est... On les brûlait, les sorcières, avant. Maintenant, on les encense, donc ça va. On est nés dans la bonne période, en fait. Ouais, ouais. Mais je suis de ce mouvement-là où il faut une résurgence de cette sorcellerie, ça serait extraordinaire. Et c'est ce qui nous sauvera. C'est ce qui nous sauvera, en fait. Ce qui nous sauvera, c'est ce qui nous permettra quand même de passer peut-être un cap un petit peu dangereux, là où la nature est vraiment détruite de temps en temps. Et tout le temps, même. On est vraiment dans un moment assez délicat.
Ces nouvelles préoccupations autour de l'environnement n'ont pas constitué un déclic pour Cathy, qui estime plus que c'est une affaire de sensibilité, de personnalité ou d'intérêt qui était présent chez elle depuis longtemps. On pourrait dire qu'il s'agit de la suite logique des événements.
On est dans une région qui est entourée de nature, donc nous, par essence, on est quand même près de la nature, on n'est pas comme les citadins dans de grandes villes. Non, c'est un cheminement, je pense. Un cheminement qui commence il y a quelques années. Et puis voilà, petit à petit, comme beaucoup en fait, on se rend compte de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Et toutes ces manifestations aussi, quand je vois le troc vert à Saint-Pierre, enfin voilà, où on va partager nos semences, ça c'est extraordinaire, ce partage qu'on peut avoir autour de la nature, quoi. Donc moi je suis optimiste par rapport à ça. Je crois que c'est un bel élan en fait de partage. Par rapport à la nature qui est intéressant. Maintenant, là, on commence à vivre des choses intéressantes. Et je ne veux pas faire la pub pour Saint-Pierre, mais c'est vrai qu'on est très aidés par rapport à ça. En fait, on a participé à des agendas, d'autant plus que les ateliers de l'agenda nature, ils sont tous gratuits. Donc les gens sont quand même ils sont aidés dans leur éducation sur la nature et les bienfaits de la nature.
Systématiquement complet, les rendez-vous de l'agenda nature de Saint-Pierre-du-Mont sont à découvrir sur le site internet de la commune et toutes les informations pour les inscriptions y sont également disponibles. En attendant, rendez-vous début juin pour le prochain épisode d'Au cœur de Saint-Pierre.
C'était Au cœur de Saint-Pierre, le magazine de la ville de Saint-Pierre-du-Mont sur MDM.